Le travail, ben on le sait, ça occupe une grande place dans nos vies. Ben d'ailleurs, moi, je suis en train de vous parler en direct de mon travail. Et c'est donc important de connaître les conditions de travail auxquelles on a droit. Il y a la loi sur les normes du travail qui dicte les différentes conditions, les conditions minimales auxquelles ont droit les salariés au Québec. Ça aussi établit des règles minimales, par exemple, sur le salaire minimum, la durée d'une semaine normale de travail, les pauses, les vacances, les fériés, etc., etc. Et aujourd'hui, pour la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, on reçoit Maître Laurie Véro, qui est juriste au CJPO. Laurie, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Ben pour commencer, Laurie, est-ce qu'on peut juste regarder qui est touché tout d'abord là, par la loi sur les normes du travail?
Oui, absolument. Donc, en fait, la loi sur les normes du travail, ou la LNT, comme je vais y référer durant la chronique, s'applique à la plupart des salariés au Québec. Donc, en vertu de la LNT, un salarié, c'est une personne qui travaille pour un employeur puis qui a droit à un salaire. Donc déjà, on peut voir que ça sort les bénévoles et les travailleurs autonomes de cette définition-là. Ils seront donc pas couverts par la loi.
Okay.
Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont exclues, les personnes qui travaillent dans une entreprise régie par les lois fédérales. Par exemple, ça pourrait être ton cas, Sébastien,
oui.
Qui travaille à la radio. Mais on peut penser aussi aux banques, là, qui seraient un bon exemple de ça, ou encore la fonction publique fédérale. De ces personnes-là, ça va être plutôt le Code canadien du travail qui va s'appliquer, qui est une loi fédérale.
Mm-hmm.
Ensuite, un autre cas marquant, ça serait plutôt les travailleurs de la construction, qui eux aussi, en fait, qui ont une loi plus spécifique qui va s'appliquer à eux. Sauf pour la question des congés parentaux, là, ça va être notre fameuse loi sur les normes qui va toujours trouver application.
Okay.
Et finalement, les cadres supérieurs, donc qui sont généralement des dirigeants haut placés dans une entreprise, ne sont pas couverts par l'application de la loi sur les normes. Uniquement, ce qui va les toucher, ça va être ce qui concerne la retraite, le harcèlement psychologique et les congés pour des obligations familiales ou parentales.
Okay.
Donc, ça, c'est une petite liste là, ici, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres personnes aussi qui sont exclues de l'application de la LNT.
Qu'est-ce qu'il y en a pour les salariés qui travaillent à la fois au Québec puis en Ontario? Est-ce que la loi s'applique juste en partie à eux? Comment ça marche?
Oui, pour nous qui résident en Outaouais, c'est important à savoir. Donc, la LNT va s'appliquer aux salariés qui exécutent à la fois au Québec et hors du Québec un travail pour un employeur qui va avoir sa résidence ou le siège social du bureau au Québec.
OK, donc c'est vraiment associé au bureau, à la maison mère, disons.
Exact.
Pour les salariés qui sont syndiqués, est-ce que la loi des normes du travail s'applique à eux?
En fait, en présence d'un syndicat, ça va être un régime un petit peu différent, mais qui va se ressembler. Ça va être en fonction d'une convention collective. Donc, c'est comme un contrat entre le représentant de l'employeur et le groupe de salariés qui est visé, qui va définir les conditions spécifiques qui vont s'appliquer à eux. Cependant, ces conventions-là, ils vont pas prévoir des conditions qui sont inférieures à ce que la loi prévoit minimalement. Là, ils seront pas contraires à la loi en général.
Idéalement pour les travailleurs. Qu'est-ce qui arrive si, disons, un contrat de travail contient une clause qui, elle, exclurait l'application de la loi des normes du travail?
Oui, il faut être à l'affût, mais heureusement, la loi sur les normes du travail, c'est une loi d'ordre public, donc c'est-à-dire qu'elle est obligatoire.
Okay.
Il est donc impossible d'y renoncer, même si ça aurait été fait dans un contrat qu'on aurait signé. Donc, le contrat ne peut pas prévoir moins que la loi. Parfois, par contre, et même ça serait encouragé, je dirais, l'employeur peut être plus généreux et offrir des conditions plus avantageuses dans son contrat, par exemple un salaire plus élevé ou plus de vacances que ce qui est minimalement prévu dans la loi sur les normes.
Bon, tu as évoqué le mot vacances, l'été s'amorce, la plupart des gens profitent de l'été pour prendre leurs vacances annuelles. Est-ce que la loi l'impose des règles minimales concernant les vacances?
Tout à fait. Donc, en fait, la loi sur les normes va prévoir la durée des vacances permises et le montant de l'indemnité qui est due par l'employeur.
Mm-hmm.
Donc, ça va fonctionner en fonction de la durée du travail continu chez un employeur. Ça, c'est important à noter aussi parce que de nos jours, on fait pas des longues carrières, des fois de 10-20 ans, on va changer souvent. Donc, c'est en fonction du service continu chez l'employeur spécifiquement. Alors, si on a moins d'un an de service continu chez l'employeur en question, on a droit à un jour ouvrable par mois de service où on a travaillé là-bas. Et jusqu'à un maximum de 2 semaines de vacances. Si on a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans, alors là, on va avoir 2 semaines de vacances payées. Mm-hmm. Et finalement, si c'est 3 ans ou plus de service continu, ben on va tomber dans la catégorie de 3 semaines de vacances payées.
Alors ça, c'est pour la durée au niveau des indemnités maintenant?
Oui. Donc, pour ce qui est des indemnités, ça va dépendre du salaire gagné, là. Donc, on a établi des pourcentages qui, en fait, nous permettent d'arriver au calcul du fameux 2 semaines ou 3 semaines, mm-hmm, généralement. Donc, c'est habituellement 4 % du salaire gagné au courant de l'année. Ou encore, si c'est 3 ans et plus de services continus, ça va être 6 % de ce salaire-là pour justement arriver à nos chiffres souhaités.
Mm-hmm.
Si l'employé choisit de ne pas prendre ses vacances, généralement, il va recevoir son indemnité compensatoire, qui est aussi appelée dans le jargon la fameuse paye de vacances ou le 4 % ou 6 %
OK.
Et finalement, il faut se rappeler aussi que oui, les vacances, c'est un droit et pas un privilège, mais l'employeur conserve quand même un droit de gestion. Donc, c'est lui qui doit accepter les dates de vos vacances et ça veut donc dire que des fois, il peut refuser qu'elles soient prises à un moment spécifique. Par exemple, un employeur pourrait refuser une demande pour des raisons opérationnelles s'il y a un autre salarié qui a plus d'ancienneté, disons, qui a déjà choisi cette semaine-là, mm-hmm, ou encore si c'est une semaine qui est particulièrement occupée en raison du type de travail ou le secteur d'activité de l'entreprise.
Dans l'actualité, c'est revenu récemment dans les dernières semaines, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, on voit de plus en plus des jeunes, plus jeunes qu'on aurait cru travailler. La loi sur les normes du travail, elle n'impose pas un âge minimal pour être salarié, pour travailler, avoir un emploi?
Mm-hmm. Oui, ben en fait, il y a des choses là-dessus au niveau du droit international pour le bien-être des enfants, mais plus spécifiquement au Québec, dans la loi sur les normes, il n'y a pas à proprement parler d'âge minimum.
Okay.
Ce que la loi nous dit, par contre, c'est que pour un enfant de moins de 14 ans, il faut absolument que les parents aient fourni une autorisation écrite à l'employeur.
Okay.
Il va aussi avoir des conditions plus au niveau de l'exécution du travail qui vont peut-être venir limiter les possibilités. Donc, si on parle d'un enfant mineur de moins de 16 ans ou une personne qui n'a pas encore obtenu, un mineur qui n'a pas encore obtenu son diplôme d'études secondaires, il ne pourra pas travailler durant les heures de classe, puis ses heures de travail doivent lui permettre d'être à temps à l'école.
Okay.
Pour un mineur aussi, il ne pourra pas travailler la nuit entre 23h et 6h du matin et il doit être en mesure de quitter son travail aussi pour être chez lui au plus tard à 23h en tenant compte du lieu où il habite.
Ouais, c'est pas 23h la fin du quart, c'est 23h à la maison. Là.
Exactement.
Okay.
Par contre, pour des travails, par exemple, les livreurs de journaux ou encore pour un gardien ou une gardienne, mm-hmm, d'enfants, là, ça va pouvoir varier un petit peu.
OK. Depuis le 1er mai, ben en fait, il y a eu une hausse du salaire minimum au Québec. Ça l'a fait passer à 14,25 $. Si une personne gagnait un peu plus que le salaire minimum avant le 1er mai, est-ce qu'elle a eu droit à une augmentation de salaire? Est-ce que c'est un peu ça le principe ou non? Ça reste stable dans ce temps?
Ça serait ouais, vraiment plaisant.
Oui, ça serait.
Malheureusement, tu sais, si votre employeur était généreux, vous a offert plus que ça, il n'est pas tenu de suivre en fait la corrélation, mm-hmm, du salaire minimum. Donc, ce que la LNT nous dit, c'est que l'employeur doit évidemment payer au moins le salaire minimum.
Oui.
Mais après ça, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur parce qu'on est encore au salaire minimum là, mm-hmm, dans la situation particulière. Par exemple, si on gagnait 15,50 $ avant et là, ça passait à 14,25 cette année, ben on est encore en haut du salaire minimum.
Qu'est-ce que la loi sur les normes du travail dit par rapport aux périodes de repas et de pause café? Est-ce que l'employeur est obligé de fournir une pause café?
Pour ce qui est de la pause café...
On a l'impression que oui, là, mais...
Bien, souvent, ça va être quelque chose qui va être offert volontairement, auquel cas l'employeur devra payer. Mais il n'y a pas d'obligation d'en fournir une. Donc,
okay,
ça revient vraiment à savoir est-ce que l'employeur en offrait une volontairement, mm-hmm, ou non.
Puis pour le repas, oui.
Pour le repas, ben là, on parle d'une période minimale de 30 minutes d'absence après une période de travail de 5 heures consécutives. Cette, okay, période-là, contrairement à la pause café volontaire, elle n'a pas à être payée.
Okay. Puis est-ce que la loi prévoit des normes par rapport aux uniformes? Est-ce qu'un employeur peut obliger un salarié à acheter un uniforme pour le travail?
Mm-hmm. Oui, ça c'est important, surtout pour l'industrie du service. Hein? Mm-hmm. Donc, pour ce qui est d'un... Uniformes. Mm-hmm. Si un salarié est payé au salaire minimum, absolument l'employeur doit fournir gratuitement le vêtement de travail exigé. Mm-hmm. Si par contre, on a un salaire qui est un petit peu supérieur au salaire minimum, l'employeur pourrait retenir certains montants d'argent pour l'achat du vêtement ou le nettoyage, s'il y a un nettoyage particulier, mais ça ne doit jamais faire en sorte que l'employé tomberait en dessous du salaire minimum par cette action-là sur sa paye. Aussi, si c'est vraiment un vêtement qui identifie le travailleur à l'entreprise, là, donc par exemple avec le logo de l'entreprise, ben ça devra être fourni gratuitement. Okay. Et évidemment, l'employeur ne pourra pas exiger que le salarié achète un vêtement particulier qui est un vêtement que lui vend. Donc, à ce moment-là, il faudrait que ça soit fourni gratuitement.
On pense à une boutique, par exemple. Là,
exact.
Puis, qu'est-ce que la loi prévoit par rapport aux jours fériés?
Bien, pour les jours fériés, en fait, on a droit à un congé payé pour les jours qui vont être identifiés dans la loi. Là, donc, je n'y passerai pas en revue, mais on peut penser, entre autres, à Noël, au jour de l'an, le congé de la Confédération. Ce congé-là, il va être indemnisé de façon égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 dernières semaines de travail de l'employé.
Et
à noter pour certains types d'emplois ou secteurs d'activité, l'employeur pourrait demander quand même de travailler une journée fériée, auquel cas il faudrait qu'il offre une indemnité supplémentaire ou un congé compensatoire à un autre moment.
C'est beau, il y a plein de règles, tout ça, là, mais un employeur qui ne les respecterait pas, c'est quoi les conséquences?
Oui, effectivement. Donc, c'est important de savoir nos droits, mais il faut savoir aussi les recours qui viennent avec. Donc, si l'employeur ne respecte pas les normes du travail, il s'expose à des amendes ou à des poursuites. Donc, en cas de problème, c'est toujours intéressant de savoir le numéro et les coordonnées de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, au cours, on va parler de la CNESST. Mm-hmm. C'est la commission qui est chargée de recevoir les plaintes des salariés, de faire enquête et s'il y a lieu, parfois, des indemnités. Donc, il y a aussi des recours comme la médiation qui pourrait amener la commission à faire travailler ensemble les employeurs et les salariés pour s'entendre sur le problème en question.
OK. Puis, est-ce qu'un employé un employeur, en fait, pourrait congédier un salarié qui a essayé de faire valoir ses droits par rapport à la loi des normes du travail?
Non, effectivement, là, c'est interdit pour un employeur de sanctionner un salarié parce qu'il exerce un droit prévu à la loi sur les normes. Donc, si un salarié croit avoir été victime d'une pratique interdite, donc ça, c'est le terme officiel dans la loi, pour faire valoir ses droits, il devra le faire dans les 45 jours de la pratique en question auprès de la CNSST.
OK. Puis, comment est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le sujet?
Évidemment, dans ces cas-là, la CNSST, c'est l'organisme qui tout indiqué pour répondre à certaines questions, mais il y a aussi beaucoup d'informations disponibles sur des sites comme Éducaloi pour en savoir plus à ce sujet.
Et puis là, Laurie, c'était notre dernière chronique de la saison. Aujourd'hui, si on veut vous joindre dans les prochains jours ou au courant des prochains mois cet été au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, on fait comment?
Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire merci aux auditeurs qui nous ont suivis tout au long de la saison et merci à toi, Sébastien, de nous avoir donné cette superbe plateforme pour renseigner les gens. Donc, si les gens veulent avoir une rencontre individuelle avec nous, ils peuvent nous appeler au numéro sans frais 1-844-606-4600 ou encore au 819-600-4600. Et finalement, c'est possible de nous suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook et Instagram, pour des nouvelles d'actualité sur le centre.
Maître Laurie Verreau, juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour la chronique d'aujourd'hui, pour cette saison-là que tu as partagée avec Geneviève Graton également, qui est directrice du centre. Merci beaucoup à vous deux, puis bon été.
Merci Sébastien, bon été.